20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Un peu de légèreté, cela nous fera du bien ce soir. C'est ainsi que nous passerons un moment avec la jeune et rayonnante chanteuse Marie Aupert, que nous nous évaderons en sa compagnie dans le monde de la comédie musicale. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous offrirons une escapade à Montréal, escapade virtuelle bien entendu. Avant cela, intéressons-nous à la situation d'urgence face à laquelle sont confrontées les grandes institutions musicales de bien des régions en France suite aux annonces du couvre-feu, des institutions dont les équipes travaillent actuellement à la réorganisation des calendriers de concerts pour les avancer plus tôt en avant-soirée ou les déplacer en journée le week-end. C'est ainsi qu'il faudra changer vos habitudes pendant quelques semaines, vous libérer plus tôt, mais l'enjeu en vaut la peine. Le Théâtre des Champs-Élysées, la Philharmonie de Paris, l'Opéra de Paris et toutes les grandes maisons parisiennes sont en train d'étudier les possibilités d'avancer les horaires de concert à 18h30, voire 18h. 18h30, c'est par exemple l'option choisie et validée par les Invalides pour sa saison musicale, saison que nous continuerons de diffuser sur notre antenne. 18h30, c'est aussi l'horaire des prochains concerts de l'Opéra de Montpellier. Quant au grand concert solidaire Unisson qui aura lieu samedi à l'Opéra Comique, il a été avancé à 17h. Tout comme le concert de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, ce même samedi, à la Halle aux Grains. Le théâtre du Capitole de Toulouse a témoigné le week-end dernier d'une incroyable capacité d'adaptation face à la situation sanitaire en sauvant littéralement les dernières représentations de Così fan tutte. Alors comment s'apprête-t-il à faire face aux nouvelles contraintes imposées par le couvre-feu? Je vous propose d'écouter son directeur Christophe Gristy que j'ai pu joindre aujourd'hui par téléphone. De la sidération, il est rapidement passé au pragmatisme pour trouver des solutions.
Nous avons la chance dans les semaines qui viennent d'avoir des ouvrages assez courts, en tout cas moins de 2 heures. Il s'agit du ballet Toulouse-Lautrec, c'est une création de Kader Bellardi, et des représentations du viol de Lucrèce de Britten. Donc les deux ouvrages font à peu près 1h45, 1h50. Ça permet d'envisager, alors tout ça est encore à discuter avec nos équipes, un début anticipé pour permettre au public de rentrer chez lui avant 21h.
Des débuts anticipés et éventuellement des reports sur les week-ends avec plus de représentations en journée le week-end.
Voilà, ça c'est aussi à l'étude. Nous jouons beaucoup le week-end. À voir, peut-être qu'il y aura en effet l'ajout d'un spectacle un samedi si c'est possible. Mais voilà, nous allons déjà tout faire pour que les représentations annoncées puissent être tenues.
Et qu'en est-il des programmes consacrés à Forêt, puisque d'ici le mois de novembre, il y a ce Pénélope de Forêt prévu pour un vendredi soir, le 23 octobre, suivi de cette journée Forêt le samedi 24. Pénélope de Forêt, c'est un petit peu plus que 2 heures. Vous pensez pouvoir maintenir cette représentation?
Absolument. Nous travaillons avec Anne Le Bozec sur Pénélope. La version originale, piano, dure en effet à peu près 2 heures. Voilà, écoutez, on va peut-être faire quelques toutes petites coupes pour permettre de jouer en 2 heures avec un entracte de 10 minutes, un entracte très bref, pour pouvoir justement tenir en à peu près 2 heures cette version concert du rare Pénélope de Forêt.
Voilà ce qui voudrait dire l'idéal, une représentation à 18h, si c'est possible, bien entendu, au Capitole de Toulouse.
Voilà, tout ça est en discussion, bien évidemment, sûr, comme je vous le disais, avec nos équipes, parce que changer des plannings, des discussions à avoir, il faut que ce soit fait en parfaite harmonie avec toutes nos équipes. C'est une discussion qu'on va mener aujourd'hui.
Mais faire venir le public dès 18h, par exemple, cela vous paraît tout à fait envisageable, Christophe Gristy? Les Toulousains peuvent venir au Capitole dès 18h?
C'est ce que nous allons voir. J'imagine que cet horaire va arranger certaines personnes qui n'aiment pas sortir le soir. C'est pas évident de venir dans le centre-ville de Toulouse, il faut se garer, etc. Donc cet horaire va peut-être arranger certaines personnes, il va évidemment en déranger d'autres. Mais ce qui nous semble important, c'est vraiment pour l'instant, comme on l'a fait avec Così, c'est d'ouvrir, de jouer. Je veux dire, le public est au rendez-vous, les dernières de Così étaient pleines. Ce soir, nous avons Marina Rebecca, voilà, il n'y a plus une place à vendre. La même chose pour Pénélope. Donc, il faut tout faire pour jouer. Et on va s'adapter. respecter. C'est une situation compliquée, hein, c'est très clair. Mais pour nous, la priorité, c'est d'ouvrir la maison.
Et on a pu apprécier votre capacité à rebondir. On vous souhaite bonne chance, Christophe Gristy, et vous nous tiendrez au courant, bien entendu, dès que ces horaires seront validés, peut-être 18h pour les représentations. Merci beaucoup.
Absolument.
Et bonne chance. Tout faire pour jouer, c'est ce que clament les grandes institutions culturelles concernées par le couvre-feu. Nous nous intéresserons demain à la situation de l'Opéra de Paris, puisque Philippe Jordan sera notre invité. Quoi qu'il en soit, la situation fragilise considérablement un monde musical déjà aux abois. Des discussions entre Bruno Le Maire, Roselyne Bachelot et des représentants du secteur musical sont en cours. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Les concerts en matinée sont devenus d'autant plus précieux aujourd'hui. Ainsi ne peut-on que se réjouir encore davantage de la reprise depuis le week-end dernier de la saison des concerts du dimanche matin de Jeanine Rose, saison qui se tient au Théâtre des Champs-Élysées. Une saison portée par l'un de ses producteurs indépendants fragilisés par la crise. Une saison qui a donc besoin de vous, de son public. Alors ce dimanche à 11h, vous pourrez applaudir Adam Laloum, Lucille Richardot, Pierre Fouchendré et le Quatuor Strada, au programme des leaders de Brahms, le concert de Chausson et des pages pour alto et piano de Schumann. Quelques notes de Schumann, le premier des Märchenbilder, par l'altiste Lise Berthaud et le pianiste Adam Laloum. Un extrait de ce qui vous attend dimanche à 11h au Théâtre des Champs-Élysées. Un concert auquel participeront également la mezzo-soprano Lucille Richardot, le violoniste Pierre Fouchendré et le quatuor Strada, auquel appartient Lise Berthaud.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Notre invitée ce soir, la toute jeune chanteuse Marie Aupert, avec qui nous allons nous évader dans le monde léger, onirique de la comédie musicale. Son tout premier album intitulé « Enchanté » vient de paraître chez Warner. Un album enregistré il y a plus d'un an, dont la publication a été repoussée suite au confinement. Mais pas de quoi éteindre la flamme qui brille dans les yeux de cette jeune et pétillante chanteuse qui s'est révélée il y a 6 ans dans les parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet et s'est depuis illustrée, entre autres dans le rôle de Podane à Marigny. Marie Aupert se réjouit de la sortie de cet album et nous confie ses émotions ce soir.
Oui, ça a été un assez long processus en fait qui a démarré même plusieurs années avant en fait quand j'avais joué dans les parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet donc en 2014. J'avais pu rencontrer l'équipe de Warner en fait qui avait fait la captation DVD du spectacle. Donc les discussions ont commencé oui, il y a presque 6 ans en fait sur ce projet et on a décidé de le réaliser lorsque je jouais dans Podane en 2018 et à partir de là, ça a été toute une découverte pour moi de ce monde de l'enregistrement. Donc après, c'est vrai que la publication n'a pas pu se faire au printemps à cause du confinement, mais ce n'était pas quelques mois de plus qui m'empêchait de réaliser ce rêve. Donc je suis vraiment ravie qu'il sorte à la rentrée.
When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret love.
Alors, votre album Marie au Père, qui vient de sortir chez Warner, réunit des airs de comédie musicale, des airs de Walt Disney, notamment avec cet air de Pinocchio. On est plongé dans le monde des contes de fées, avec des princesses qui portent des robes magiques, avec Cendrillon, avec tous ces personnages qui constituent le monde du rêve, le monde de notre enfance. Vous qui chantez de la comédie musicale, est-ce que vous avez l'impression d'avoir quelque part gardé votre âme d'enfant, sachant que l'enfance n'est pas très loin, puisque vous n'avez que 23 ans?
Oui, tout à fait. J'ai entièrement l'impression que notre âme d'enfant reste vraiment en nous, surtout en tant qu'artiste, comédienne et chanteuse, bien sûr. J'ai l'impression que c'est vraiment la recherche perpétuelle, justement, de notre enfance, de retrouver cette imagination infinie qu'on avait naturellement enfant. Et j'espère que ce disque permettra à tous de retrouver cette part de nous qui est toujours en nous, puisqu'on est toujours la même personne.
Alors, la comédie musicale, le chant, vous y avez goûté dès votre plus tendre enfance, au sein d'une maîtrise tout d'abord. Vous avez ainsi participé à de nombreux spectacles très jeunes. Pinocchio, je crois que c'était un de vos premiers rôles. Vous aviez quel âge? 10 ans, 11 ans?
Oui, exactement. C'était au sein de la maîtrise de Paris, du CRR de Paris. Il y avait la metteuse en scène Sandrine Anglade qui était venue caster des enfants pour cette création autour du voyage de Pinocchio. C'était vraiment une révélation de la scène pour moi, cette tournée et ce travail. Et puis ensuite, quand j'ai joué au Châtelet, au Théâtre du Châtelet, dans The Sound of Music, La Mélodie du Bonheur, mise en scène par Emilio Sarri, que j'ai pu découvrir la comédie musicale américaine. Et à l'époque, j'avais 12 ans et ça a été vraiment une immense révélation de découvrir tout cet univers que je ne connaissais pas du tout.
Et depuis, vous vous êtes entre autres révélé à seulement 17 ans dans Les Parapluies de Cherbourg, toujours au Théâtre du Châtelet. Il y a eu Peau d'âne plus récemment. Les Parapluies de Cherbourg, c'était la rencontre avec Nathalie Dessay et avec Michel Legrand. C'était une rencontre importante, Marie au Père, j'imagine.
Oui, évidemment, c'était une rencontre extraordinaire et aussi fondamentale dans mon désir de faire ce métier. Grâce aux Parapluies de Cherbourg, ça a été vraiment déterminant pour moi. C'est par la suite que j'ai pu faire mes études aux États-Unis, à New York, et grâce à ces rencontres, notamment avec Michel Legrand et Nathalie Dessay, qui évidemment figurent dans le disque. C'est pour moi des personnes très très importantes.
Vous vous êtes donc perfectionnée sur l'art de la comédie musicale à New York, Marie au Père. La comédie musicale, c'est chanter, danser, jouer la comédie, développer toutes ses compétences, être capable en tout cas de développer toutes ses compétences.
Oui, c'est vraiment un art pluridisciplinaire qui commence à vraiment évoluer en France aussi, avec notamment de plus en plus de formations, de plus en plus de maisons, de théâtre, d'opéra qui proposent ce genre de répertoire. Et c'est vraiment, oui, oui, dans la tradition américaine de raconter une histoire par les différents moyens du chant, du théâtre et de la danse, mais c'est avant tout quand même une pièce de théâtre en musique. Et le chant et la danse sont des éléments qui vont rajouter d'autres dimensions pour raconter cette histoire.
Et pour cet album, vous êtes accompagné d'un grand orchestre, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Nicolas Skilbeck. D'habitude, pour les comédies musicales, l'orchestre qui est en fosse est un petit effectif de quelques musiciens, même si au Théâtre du Châtelet, vous avez pu chanter avec un effectif plus important. Mais un orchestre aussi important que l'Orchestre National de Lille, est-ce que vous aviez déjà eu cette expérience avec un orchestre symphonique?
Alors, c'est mon premier enregistrement, effectivement, mais oui, notamement au Théâtre du Châtelet ou dans d'autres maisons d'opéra, j'avais eu la possibilité de chanter avec un orchestre symphonique et ça a été vraiment très intéressant et c'était aussi l'objet du disque, d'essayer d'adapter ce répertoire pour un plus grand effectif que dans la tradition de Broadway. Et donc c'est toutes ces orchestrations qu'a réalisé Tom Kelly qui ont fait vraiment aussi cette unité et cet univers qu'on a essayé de créer, un échange en fait entre le monde peut-être plus classique d'un orchestre français avec le répertoire de la comédie musicale et dirigé par Nicolas Skilbeck, qui est un grand directeur musical spécialiste des comédies musicales anglais.
Bad, bad, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'll never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced.
Chanter entre autres My Fair Lady, l'un des rôles que vous avez déjà incarné sur scène, Marie Aubert, dans cet album sorti chez Warner avec l'Orchestre National de Lille. Vous chantez des standards de la comédie musicale, des airs en français, des airs en anglais, avec cette technique propre à la comédie musicale de voix chantée qui inclut un micro. Alors l'opéra, c'est une autre technique, il y a plus de projections. On sait qu'il est difficile de passer de l'opéra à la comédie musicale. Nathalie Dessay, qui a opéré cette mutation, a dû réapprendre à chanter avec un micro. Est-ce que vous envisagez, vous-même, Marie Aubert, de passer plus tard de la comédie musicale à l'opéra? Est-ce que cela fait partie de vos rêves?
Alors, en effet, oui, je me forme depuis quelques années au chant lyrique avec une professeure du conservatoire. Donc en effet, je suis très intéressée d'apprendre cette technique vocale, donc de projection, et aussi de découvrir le répertoire d'opéra, d'opérette, et donc pourquoi pas de chanter dans ce répertoire aussi plus tard, une fois que la voix sera assez développée. Parce que pour moi, en fait, quelque part, c'est la même chose, c'est le même métier, en fait, c'est vraiment incarner des rôles, raconter des histoires à travers la musique ou à travers le texte. Et donc pour moi, ça se rejoint tout à fait. Après, évidemment, c'est pas la même technique vocale. Donc c'est ça que j'essaie d'apprendre pour ensuite peut-être avoir la possibilité de faire les deux, ou on verra, voilà, ce que la vie amène.
Mais en
tout cas,
vous avez un bel avenir devant vous, parce que vous êtes encore toute jeune. La comédie musicale, pour le moment, c'est votre passion. En ce moment, New York est éteint, Broadway est éteint pour sans doute encore de longs mois. On imagine peut-être même une année entière sans comédie musicale à Broadway. Comment vivez-vous cela, même si vous n'êtes pas à New York en ce moment, mais vous avez vécu à New York, Marie Aupert? Tous les gens qui sont passés à New York revoient ces images de Broadway éclairé, Broadway plein de vie. Comment peut-on envisager Broadway éteint?
Comment, oui, c'est,
en tout
vraiment,
cas, vous l'envisagez-vous ?
C'est vraiment une situation unique. C'est une première dans l'histoire de Broadway. Et en plus, j'étais à New York le jour où ça s'est éteint, parce que je participais à un concours avec la Fondation Kurt Weill. Donc j'étais là cette semaine où tout à coup Broadway s'est éteint. Et oui, c'est vraiment, vraiment tragique pour toutes ces productions, notamment toutes les créations qui allaient arriver, parce qu'en plus, c'était une période au printemps où il y avait beaucoup de nouveaux spectacles qui allait ouvrir. Donc on verra les répercussions. En tout cas, j'espère vraiment qu'il continuera à y avoir des créations et des nouveaux spectacles, parce que c'est toute une histoire et tout un monde magique.
Dont on a besoin, d'autant plus en ce
Exactement.
Moment, avec tous ces soucis, tous ces moments difficiles. La comédie musicale, c'est la légèreté, c'est le bonheur, et on peut s'évader, oui. Oublier ces problèmes. Alors, Marie Aupert, on pourra vous entendre, non pas à Broadway tout de suite, peut-être un jour, on vous le souhaite, lorsque la vie musicale reprendra à New York. Vous serez les 17 et 18 octobre à Montpellier et à Avignon pour rendre hommage à Michel Legrand. Le 9 novembre, ce sera au Bal Blomet, mais à Paris, pour défendre les couleurs de cet album. On pourra vous entendre dans,
oui,
le programme de
fait.
Cet album. Vous serez accompagné d'un petit effectif. Il n'y aura pas d'orchestre
ça.
Complet.
Avec la section rythmique, en fait, qui était présente aussi dans l'enregistrement au sein de l'orchestre.
Et puis, une tournée avec la pièce La Tempête de Shakespeare. Une tournée dans une production mise en scène par Sandrine Anglade, que vous connaissez, qui
voilà,
vous avez repérée toute jeune.
C'est ça.
Et là, vous êtes comédienne et vous chantez un peu, mais vous êtes surtout actrice.
Oui, c'est vraiment un projet de théâtre qui contient pas mal de musique, parce que c'est une pièce très musicale. En fait, il y avait toujours beaucoup de musique dans les pièces de Shakespeare.
Oh, c'était les comédies musicales avant l'heure, presque.
Ah oui, c'est ça. Presque, à part que les musiques ne font pas forcément avancer l'action.
Oui.
Ce qui est quand même une différence avec la comédie musicale. Mais oui, pour moi, c'est aussi très important de développer le théâtre.
Et on vous souhaite une belle carrière qui ne fait que commencer, enfin qui a commencé il y a déjà quelques années avec les Parapluies de Cherbourg et Podane, qui est amenée à se développer. On suivra cela avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle la sortie de votre premier album, Marie Aupert. Enchantée, c'est son titre. Vous êtes enchantée vous-même. Vous avez l'impression de vivre un conte de fées, finalement, vous aussi, en ce moment.
Ah bah oui,
années.
Tout à fait. C'est vraiment, en tout cas, ce disque, c'est vraiment un rêve qui se réalise, c'est sûr.
Et on vous souhaite la réalisation de bien d'autres rêves. Merci
beaucoup. Merci à vous.
Anything can happen if you let it. You won't know a challenge until you've met it. No one does it for you. No one but yourself. Vacillating violets get left up on the shelf. Anything can happen, just imagine. That should be my epitaph. Badge in honor of this world's free thinkers, those who see beyond their blinkers. Jellies and jelly till you set it. Anything can happen if you let it. If you reach for the stars, all you get are the stars. But we found a whole
C'est dans un air de Mary Poppins chanté avec Melissa Errico que l'on écoutait ici Marie au Père, un nouvel extrait de cet album enregistré avec l'Orchestre National de Lille et Nicolas Skilbeck, sorti chez Warner. Alors un petit mot sur les concerts à venir de Marie au Père. Les horaires ont été adaptés au couvre-feu. Le concert du 17 à Montpellier, en hommage à Michel Legrand, a été avancé à 18h30 et celui d'Avignon, qui se tiendra le lendemain, est déjà programmé. Programmé à 17h. L'horaire du concert du Bal Blomé sera également avancé.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Alors on s'évade ce soir à Montréal sur les pas du chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin.
Et de son orchestre métropolitain. On a déjà évoqué régulièrement à cette antenne le magnifique partenariat entre l'orchestre métropolitain de Montréal, qui a été fondé en 1981, et son chef, chef à vie désormais, c'est son titre, Yannick Nézet-Séguin. Alors que sa carrière s'envolait, on le sait, aux États-Unis et en Europe, ce charismatique maestro québécois est toujours et demeure encore vraiment fidèlement attaché à ses racines musicales et à son amitié qui remonte à très loin pour les instrumentistes de l'orchestre métropolitain. Mais au Canada, comme dans toute l'Amérique et comme ailleurs, chez nous en particulier, la crise sanitaire bouleverse complètement la donne et il a fallu imaginer le moyen de rester en lien avec le public, même si la plupart du temps la tenue des concerts traditionnels doit être déprogrammée. Ainsi à Montréal, le recours aux technologies de communication devient la règle, avec un abonnement qui est proposé sur le web pour continuer à suivre l'activité musicale et notamment celle du métropolitain.
Mais il ne s'agit pas uniquement de simples captations.
Non, en effet, le choix a été fait par Yannick Nézet-Séguin et ses amis instrumentistes de proposer des expériences diverses et inventives pour que cette captation ne soit pas neutre, mais propose une véritable valeur ajoutée, un produit audiovisuel, si on voulait jargonner, et ne se contente pas donc d'être le simple filmage d'un concert. Ainsi, les amateurs ont pu découvrir un film fait autour de la symphonie pastorale de Beethoven qui avait été tournée durant les beaux jours sur le Mont-Royal et qui était jalonné donc de vues de la ville depuis le Mont-Royal et de moments chorégraphiques puisqu'on sait aussi que la danse subit de plein fouet la crise et c'était un hommage mutuel que danse et musique se rendaient. Ce 16 octobre, donc demain, le Métropolitain devait donner le Requiem de Fauré et si la prestation en public ne pourra pas avoir lieu, le concert sera filmé là aussi au plus près des musiciens et proposé donc sur le site. Les musiciens seront donc ceux du Métropolitain et puis un chœur évidemment et les solistes vocaux, la soprano Suzanne Tafot et le baryton Philippe Sly. Et toute cette équipe musicale insiste sur la dimension consolatrice face à la douleur, à la mort, au doute, à l'incertitude que partage en ce moment tout le monde de la culture, de ce Requiem de Fauré. Et dans une période difficile, c'est cette dimension qui sera mise en avant à travers la musique et à travers le visage et les corps filmés de ceux que la musique traversera. Le Métropolitain a créé un forfait, un abonnement donc web, pour que le spectateur continue à sentir qu'il participe à une saison musicale, non à une série de concerts, mais vraiment à un tout. et que voilà, ce compagnonnage continue envers et malgré tout.
Voilà, et on se laisse porter par le Métropolitain, l'orchestre de Yannick Nézet-Séguin, et par la musique de Debussy.
Et la mer, bien sûr.
Quelques-uns des jeux de vagues de Debussy, un extrait de La Mer par l'orchestre métropolitain du Grand Montréal, dirigé par son chef à vie, Yannick Nézet-Séguin. Merci beaucoup,
merci
Emmanuel,
Laure,
pour ce petit voyage à Montréal. Merci à Damien Grelier pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie du chef Philippe Jordan, qui nous en dira plus sur ses perspectives pour ces derniers mois, ces dernières semaines en tant que directeur musical de l'Opéra de Paris. Très belle soirée à tous, une soirée qui se prolonge en musique, bien entendu.